Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Des difficultés qui peuvent compliquer la reprise économique, y compris dans le Jura, les entreprises doivent faire face à des pénuries de matières premières. Divers secteurs économiques sont concernés. La quantité, pas vraiment, mais la qualité, oui. Le raisin ne surcharge pas les vignes de la région, cette période de vendange. La météo n'a pas été du côté des vignerons cette année. En football, l'arbitrage vidéo en question. Un but du FC Saint-Gall a été validé hier, alors qu'un joueur de Servette avait été victime d'une faute précédemment. L'ancien arbitre Nicole Petignat tire un bilan sévère de la VAR. Météo, du soleil, malgré quelques voiles d'altitude. Cet après-midi, il fera entre 15 et 16 degrés maximum aujourd'hui. Le ciel nous réserve du brouillard le matin et du soleil par la suite demain. Les entreprises, y compris jurassiennes, doivent s'armer de patience pour se procurer des matières premières. Le monde entier est touché par de nombreuses pénuries depuis que les activités économiques ont repris un rythme post-Covid. Un effet de rattrapage s'observe à travers la planète, ce qui crée une forte demande. Le PVC, le cuivre, l'acier ou encore le bois sont particulièrement recherchés. Dans la région, tous les secteurs sont touchés, selon le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, Pierre-Alain Béret.
Ce phénomène touche aujourd'hui l'économie jurassienne de manière quasi générale. On l'observe dans l'industrie, on l'observe dans le commerce, on l'observe aussi dans la construction. Et ça se traduit par des délais qui sont de plus en plus longs. Et les consommateurs s'en rendent compte, mais aussi les fabricants, les entrepreneurs qui peinent par exemple à trouver certains composants, qui voient les délais d'acheminement de certaines pièces ou de certaines matières premières se rallonger. Ça entraîne aussi d'une manière assez générale actuellement des hausses de prix. Et puis, ça se traduit aussi par certains projets dans les entreprises qui sont reportés ou qui sont tout simplement annulés. Donc, ça a vraiment des effets multiples sur l'activité des entreprises en ce moment.
Et selon Pierre-Alain Béret, la reprise économique s'accompagne également d'une pénurie de la main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie. Les vendanges battent leur plein dans la région. Armées de pinces coupantes, les petites mains s'affairent à cueillir le raisin dans les vignes. Et les grappes ne se bousculent pas cette année. À Buy, la famille Florimona estime que les récoltes sont inférieures de 30% par rapport à une année standard. Il faut dire que les vignerons n'ont pas vraiment été soutenus par la météo en 2021. Nicolas Meusy s'est rendu à Moutier, dans les vignes prévotoises, pour faire un état des lieux avec Aurel Morf.
La grêle au printemps, la pluie en été et le mildiou, les conditions étaient loin d'être optimales cette année pour la récolte du raisin. Mais même si la météo n'était pas une alliée, le vigneron prévotois Aurel Morf en tire du positif.
Ce qui me plaît à imaginer, c'est qu'ayant subi toutes les adversités qu'une vigne peut subir en une année, s'il reste encore quelque chose, alors c'est vraiment quelque chose de très, très concentré, très fort, très vivant, puisque ça a dû surpasser plein d'épreuves. Et alors ça, ce sera un jus très intéressant à boire.
Un breuvage spécial donc, qui aura survécu aux épreuves concoctées par Mère Nature. Le raisin détient des caractéristiques particulières cette année, Aurel Morf.
On a moins de sucre, une belle acidité, par contre, un tanin très mûr et un fruité très mûr. Donc on aura moins d'alcool dans les vins, ce qui ne veut pas dire que ce sera des vins moins bons. C'est pas parce que fondamentalement il y a moins de sucre ou il y a moins d'alcool que le vin est moindre.
La qualité est au rendez-vous, mais le vigneron prévotois ne peut pas en dire autant de la quantité, Aurel Morf.
Il y a moins de raisins que d'habitude, donc on a aussi moins de travail en soi. Et puis on peut vraiment concentrer l'attention sur réussir au mieux possible ce qu'on a pu préserver. Donc on finit avec calme et quand même un bon brin de satisfaction.
Des vendanges loin d'être catastrophiques au final, grâce notamment aux conditions météo idéales en septembre et en octobre, à croire que Mère Nature a décidé de donner un petit coup de pouce aux vignerons de la région.
Mais les vignes ont également résisté à Porrentruy. Celles d'Hervé Chafter au pied du château Brun-Trutin ont fourni leur première petite récolte. Le raisin sera transformé en vin blanc ou en vin mousseux. Bourignon tient son nouveau maire. Thierry Sautebin a été élu tacitement aujourd'hui à la tête de la commune pour remplacer le démissionnaire Michel Egenschwiller dès le 1er janvier prochain. L'homme de 54 ans qui n'a pas d'étiquette politique est le seul candidat à s'être annoncé au terme du délai de dépôt des listes aujourd'hui à midi. Porrentruy souhaite faire découvrir la ville sans éclairage public. Les candélabres de la vieille ville seront éteints ce soir de 20h à 21h. La municipalité propose d'échanger pendant cette période et de se promener dans les rues pour s'imprégner au mieux de l'atmosphère. De réels enjeux se cachent derrière cette petite animation, Nancy Chapuis.
Toute la semaine, ce sont une douzaine de secteurs qui seront plongés dans le noir. De 23h à 5h, les quartiers résidentiels et les zones artisanales verront leurs lampadaires s'éteindre. Pour être précis, 472 candélabres, ce qui représentera une diminution d'électricité de 50 000 watts et en termes financiers, 465 francs. L'essentiel n'étant pas de faire des économies de bout de chandelle, mais bel et bien de faire un effort pour la biodiversité des insectes nocturnes ou encore pour limiter les troubles du sommeil chez l'être humain, tout en respectant les craintes liées à la nuit et le sentiment de sécurité. Après cette expérience, un sondage sera transmis aux habitants pour connaître leurs ressentis.
Et les routes cantonales ne seront pas concernées par cette extinction nocturne. La municipalité de Porrentruy, son distributeur énergétique BKV, donne rendez-vous à la population ce soir à 19h30 devant l'hôtel des Halles. C'est une proposition artistique pas comme les autres qui fait escale dans le Jura. Le spectacle « Ni Brel, ni Barbara » sera présenté aujourd'hui à Courandes, demain à Seignelégier, vendredi à Boncourt. Deux artistes suisses, Laurent Brunetti et Mario Pacchioli, qui présentent ce théâtre musical. Pendant plus d'un mois, ils arpentent la Suisse romande à bord d'un truck de 40 tonnes aménagé en salle de spectacle pour 90 personnes. Un projet un peu fou, né pendant la crise du coronavirus, Laurent Brunetti.
Le deuxième jour de confinement avec Mario, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait trouver une solution pour l'après et pour pouvoir retourner voir les gens et puis recréer la culture. Et on avait vraiment envie depuis longtemps d'amener la culture dans des endroits où elle est moins présente, d'aller un petit peu rencontrer les gens, et c'était vraiment l'occasion de le faire. Cette situation a permis ceci.
Vous avez choisi dans le Jura Courandelin, Seignelégier, Boncourt. Pourquoi ces trois communes-là?
Ça n'a pas été vraiment un choix. Ça a été vraiment dans la démarche de la mise en place de la tournée pour être sur les six cantons. On a vraiment essayer d'aller dans toutes les régions et puis d'aller rencontrer les gens un petit peu partout en Suisse romande. Donc voilà, on a écrit à toutes les communes nous ont répondu, on a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Le choix, on a dû le faire dans l'ordre d'arrivée en fait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'intérêt sur ce projet-là. Donc on est heureux d'être à peu près partout sur les six cantons romands et le plus possible géographiquement réparti.
Et Laurent Brunetti était l'invité de la matinale avec son compère Mario Pacchioli. Retrouvez l'entretien complet, les informations en lien avec le spectacle Ni Brel ni Barbara sur notre site internet rfj.ch. Parler de torture et de violence systématique dans les centres fédéraux d'accueil de demandeurs d'asile est injustifié et faux. Quelques cas d'intervention disproportionnée ont bel et bien eu lieu, mais ce n'est de loin pas la règle. Ce sont les conclusions du rapport de l'ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer, présenté aujourd'hui à Berne. Le document propose toutefois une foule de recommandations. Les explications de notre correspondant à Berne, Serge Hubin.
Ce printemps, des médias et des ONG ont dénoncé le recours à la violence de manière excessive et systématique dans les centres fédéraux pour requérants d'asile. Or, selon l'ancien juge Oberholzer, il n'y a pas d'indice de violation systématique des droits des demandeurs d'asile. L'accusation de torture est injustifiée et fausse, écrit-il dans son rapport, et il l'a longuement développé ce matin. Pourtant, il y a eu 7 situations spécifiques d'intervention violente du personnel de sécurité. Dans 3 cas, c'était justifié, le demandeur d'asile était sous l'emprise d'alcool et de drogue. Dans un autre cas, il y a doute, mais dans 3 situations, l'intervention a été jugée excessive. 3 de trop, souligne le secrétaire d'État aux migrations Mario Gatticaire. La justice investigue spécifiquement. Cela ne signifie pourtant pas qu'il y a une violence systématique à l'encontre des demandeurs d'asile, reprend le juge Oberholzer. 3 cas, alors qu'il y a 2300 demandeurs d'asile dans les centres fédéraux et 700 agents de sécurité. Pourtant, le même juge recommande de renforcer la formation de ces agents de sécurité. Il faudrait la porter au rang de celle de policier, dit-il. Il est aussi demandé au SEM d'avoir davantage de son propre personnel dans les centres, de revoir les règles concernant l'usage de la contrainte, d'améliorer les processus d'établissement des rapports d'incidents. Le patron du secrétariat d'État aux migrations, Mario Gatticaire, qui prendra bientôt sa retraite, acquiesce. Des mesures ont été prises déjà et le nombre d'interventions policières et d'escalades de violence a diminué de 40%.
Enfin, la police examine le contenu du discours prononcé samedi à Rapperswil par un député UDC du canton de Schwyz lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires. David Beller a affirmé que le Conseil fédéral avait trahi le pays, que la loi martiale régnait en Suisse. Il a également déclaré que la police avait tiré sur les manifestants et qu'elle battait les femmes et les personnes âgées.
RFJ, il est 12h25.
Sport.
En football, le débat sur la VAR se voit relancé après le match d'hier entre Saint-Gall et Servette en Super League. L'arbitre de la rencontre a fait appel à l'assistance vidéo à plusieurs reprises, mais l'action qui a amené le deuxième but saint-gallois, validé après visionnage de la VAR, a été très décriée notamment. La réussite aurait selon toute vraisemblance dû être annulée pour une faute saint-galloise sur un Servettien à la récupération du ballon. La jurassienne Nicole Petigna, ancienne arbitre internationale, tire un bilan sévère de l'assistance vidéo.
En Suisse, paraît-il que c'est l'arbitre qui demande la VAR. Donc c'est complètement ridicule, puisque si moi j'arbitre puis je vois pas de faute qu'il faudrait peut-être demander à la VAR, eh ben je le demande pas. Tandis qu'à l'Euro, c'était la VAR qui venait. Et puis les gens qui sont de la VAR, on les voit pas avant le match, ils sont pas à côté du match, ils sont pas dans le stade. Et je trouve complètement débile de les mettre à Zurich, alors qu'avant le match, on doit pouvoir discuter avec ces gens, leur dire, écoutez, Saint-Gall est à cette place-là, Genève est à cette place-là, qu'est-ce qu'on devrait voir ensemble ? On n'analyse pas profondément tout le match avant. Avant, moi, en tant qu'arbitre, j'analysais un peu les positions, j'analysais les entraîneurs, j'analysais pour un petit peu justement dire à mes assistants, attention, lui, il est toujours hors-jeu, ou bien lui, il est toujours en train de faire des fautes un peu méchantes ou des trucs comme ça. Donc, le truc, c'est là, ça ne joue pas du tout. Même à l'Euro, ça n'a vraiment pas joué. Normalement, la VAR, ça doit être un soutien. Là, ça fout complètement en l'air le jeu.
Vous retrouvez une vidéo de l'action litigieuse soumise à la VAR dans le match entre Saint-Gall et Servette en lien sur notre site internet. En tennis, Roger Federer sort comme prévu du top 10. Le Balois pointe à la 11e place du dernier classement ATP publié ce matin. Quant au Vaudois Stan Wawrinka, il se fait éjecter du top 50 pour se classer 57e. Enfin, la flamme olympique des prochains JO d'hiver de Pékin qui auront lieu du 4 au 20 février a été allumée aujourd'hui à Olympie en Grèce. Le public était absent à cause du Covid-19. La flamme a été allumée selon le rituel traditionnel par les rayons du soleil sur les ruines du temple antique d'Héra à Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité.